Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Chers auditeurs et internautes, bonjour. Le 24 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée des Nations Unies. À cette occasion, votre magazine Bana Okapi se focalise sur l'apport des agences des Nations Unies dans les secteurs de l'éducation. Justement, l'UNICEF, cette agence des Nations Unies, agit depuis 60 ans en RDC et appuie le gouvernement dans les secteurs de l'éducation. Dans ce magazine, nous braquons nos projecteurs sur les actions de l'UNICEF en RDC, particulièrement dans les secteurs de l'éducation. Nous serons dans quelques grandes villes du pays pour recevoir quelques invités avec qui nous allons aborder ces sujets en vous fournissant plus d'éclairage. Toute l'équipe Bana Okapi participe à la production de ce magazine présenté par Sarah Sumbela, mise en onde de Polydor Basunga. La réalisation est signée Gisèle Cage sous la supervision de Jean-Marc Matoki Mofelele, Dijano.
Radio Okapi.
À Bukavu,
Okapi,
sur 95.3 FM.
Okapi.
Commençons notre magazine dans la partie est du pays, au sud Kivu, précisément à Bukavu. Dans la ville de Bukavu, l'UNICEF intervient beaucoup dans l'éducation des enfants, notamment en appuyant la réhabilitation des écoles, en mettant à la disposition des écoles de fournitures scolaires. Elle accompagne aussi le ministère de l'UPST dans plusieurs projets d'éducation des enfants et des jeunes. À titre d'exemple, jeudi dernier, l'UNICEF a remis de kits de réinsertion socio-économique aux jeunes adolescents vulnérables à Bukavu. C'est là dans le cadre de la clôture de la formation de métier session 2023-2024. Rachel Kisimbango nous en dit plus dans ce reportage.
164 jeunes et adolescents vulnérables, dont 111 filles issues des filières différentes de formation. L'activité a eu lieu à la botte dans la ville de Bukavu. Ils ont reçu divers matériels selon leur domaine de formation, notamment en coupé-couture, menuiserie, coiffure, maçonnerie et autres. Hubert Furuguta, 14 ans, fait partie des bénéficiaires.
Ils m'ont donné du bois, de scie, du marteau et beaucoup d'autres matériels. Ça va m'aider à fabriquer des meubles comme la table, la chaise et autre chose. Ce travail va m'aider à me prendre en charge ou même d'appuyer financièrement ma famille. En tout cas, c'est un bon métier parce que ça permet à quelqu'un de se prendre en charge. D'abord, je n'étudiais pas, j'étais oisif, je passais toute ma journée en train de déambuler, à ne rien faire. Mais depuis lors, j'ai une occupation et je passe mon temps à la formation. Et vers 15h, quand on termine, je rentre à la maison, je commence à essayer de moi-même tout ce qu'on nous a appris. Et en termes d'exercice, il y a des petits meubles que j'ai commencé à fabriquer et ça me procure déjà de l'argent pendant que je suis encore en formation. Pour le moment, dans ma petite caisse, je peux avoir 30$. Je peux prendre une partie, je remets à mes parents qui m'ont envoyé dans cette formation et une autre partie contribue à ma prise en charge.
Catherine Balimba, ministre provinciale de l'EPST au sud Kivu, s'est dit satisfaite du programme de coopération entre la RDC et l'UNICEF.
La distribution d'aujourd'hui, qui est devenue une tradition depuis le lancement de ce vaste programme, s'inscrit dans la continuité du projet que nous mettons en œuvre dans la province depuis quelques années déjà, avec l'accompagnement technique et financier de notre partenaire UNICEF, dans le souci d'apporter des réponses appropriées aux besoins récurrents de formation et d'encadrement des jeunes et adolescents qui n'ont pas accès au système d'enseignement classique et qui se retrouvent en dehors du circuit normal d'enseignement au niveau de nos villes et villages, pour raison soit de pauvreté, soit de conflits armés ou de toute autre vulnérabilité. À cette occasion, je me réjouis de constater que ce programme s'est avéré une véritable réponse alternative et efficace pour des jeunes adolescents et pour la communauté tout entière, d'autant plus qu'elle résorbe tant soit peu le chômage des jeunes en promouvant leur auto-emploi et en leur offrant une opportunité d'être de véritables acteurs du développement de notre province. En effet, la formation étant un droit fondamental pour chaque citoyen, former ou apprendre à un jeune ou à un adolescent, c'est lui donner la chance de réussir dans sa vie et quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Chers jeunes adolescents, prenez soin de votre avenir. Vous êtes des acteurs du développement de notre société et des changements pour vos amis et camarades aujourd'hui dans la rue. Vous êtes un levier indéniable de production de richesses pour notre province.
L'action de l'UNICEF dans l'amélioration et le renforcement de la qualité de la formation professionnelle et métier se poursuit 3 ans depuis le lancement de ce programme au Sud Kivu. Emmanuel Chibango de l'UNICEF revient sur l'impact de ce programme.
Déjà plus de 3 ans, l'UNICEF finance et appuie la formation professionnelle et métier, ainsi que l'autonomisation des jeunes, sans pour autant compter ceux qui ont bénéficié du programme tout au début. 3808 adolescents et jeunes, dont 2529 filles, dans les 3 ans passés, ont bénéficié de ce programme et sont sur le marché de l'emploi, dont 65% ont mis leurs entreprises et activités professionnelles en étant déjà autonomes financièrement et résilients. Au total, 17 filières de formation ont été choisies par les adolescents durant ces années, à savoir pour les uns et les autres la cordonnerie, la coupe et couture, la maçonnerie, la mécanique, la menuiserie et charpenterie, la pâtisserie, la coiffure, la vannerie et art plastique, la pêche lacustre, le meunier, l'ajustage ou soudure ou menuiserie métallique, l'art culinaire et restaurant. À cette formation professionnelle et métier, en tant que partie technique, les adolescents et les jeunes ont profité encore et bénéficié d'un paquet complémentaire de formation en entrepreneuriat, l'éducation et inclusion financière, l'éducation à la paix et la santé sexuelle et de la reproduction. Pour l'année 2024, un total de 1200 adolescents et jeunes ont bénéficié de la formation pour la 4e cohorte de la formation en province du Sud Kivu. Et aujourd'hui, devant nous, nous avons 164 jeunes et adolescents de la ville de Bukavu qui vont aussi recevoir leur kit de fin de formation en tant que lauréat parmi tant d'autres. Nous leur félicitons et les encourageons à continuer à travailler avec amour, patriotisme, courage et honnêteté, enfin de contribuer au développement de la province et de la République démocratique du Congo. Nous profitons pour offrir un plaidoyer en leur faveur auprès de l'autorité provinciale afin que ces adolescents et jeunes vulnérables continuent à bénéficier de l'accompagnement du gouvernement provincial et l'exonération aux différentes taxes pour leur permettre de bien s'installer et se développer. Ainsi, nous invitons les communautés et autorités locales d'apporter encouragement, soutien, conseil et sécurité aux activités de ces adolescents et jeunes, afin qu'ils évoluent dans un environnement sûr et sécurisé pour la réussite de leurs activités professionnelles.
Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Après les Sud-Kivu, rendons-nous au Nord-Kivu, à Beni. L'intervention de l'UNICEF est globalement bien appréciée dans les écoles de Beni, avec quelques bémols toutefois. Ainsi, si certains responsables d'écoles parlent des avancées significatives dans leurs écoles, d'autres en revanche recommandent à l'UNICEF de mettre davantage un accent sur le renouvellement de manuels pour un meilleur apprentissage. Guylaine Kassassia pour Le Point.
À l'école primaire de Mbene, les actions de l'UNICEF remontent à belle lurette. Certaines datent d'il y a plus de 6 ans, ce qui ne permet pas aux écoliers de bien étudier. C'est ce qu'explique Claude Zitone et Sibamwanza, son responsable.
L'intervention de l'UNICEF par rapport aux fournitures ou autre chose pour l'amélioration des situations scolaires, il n'y en a pas pour le moment, ça fait longtemps, plus de 4 ans. Alors bon, je pense que c'est maintenant opportun que ça puisse intervenir pour que ça puisse nous aider à bien encadrer ses enfants. Ils avaient donné de kits hygiéniques, donc les seaux, les lavabos. Je peux noter aussi l'amélioration de la situation là de la latrine. Il y a quelques réhabilitations qui ont été faites, pas beaucoup. Les documents, non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Il y a 4 ans, je dis que je suis là. Je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore vécu ces interventions-là dans le cadre de l'éducation.
L'insuffisance des manuels scolaires empiète sur la bonne qualité de l'enseignement avec un effectif de 60 écoliers, non que 25 livres, ce qui ne permet pas à l'enseignant d'atteindre son objectif. Katia Kalibo, enseignant de la 6e année, explique.
Autrefois, on utilisait normalement les manuels et aujourd'hui, les manuels sont déjà à l'ambo et nous avons des difficultés pour les enfants. Les manuels n'existent plus et donc, on en a besoin. Il est difficile aux enfants de faire la lecture et pour ceux qui restent, on essaie au moins d'utiliser les manuels, mais qui ne sont pas suffisants pour les enfants. J'ai environ 60 écoliers.
Avec combien de livres?
Avec environ 25. Pour la lecture, il y a des fois où on écrit au tableau, les enfants recopient le texte et on donne un livre presque à 5 enfants. Et il y a difficulté vraiment de la lecture parce que normalement chaque enfant devient un trémuni de son livre pour une meilleure lecture selon la pédagogie. Nous n'allons pas atteindre l'objectif. Parce que lorsqu'il y a un livre, les enfants sont difficiles à lire. Donc, nous voulons à ce que chaque enfant soit muni de son livre. C'est une interpellation que nous faisons au gouvernement parce que actuellement, il n'y a plus moyen de nous débrouiller loin que la force du gouvernement. Et aujourd'hui, si vous essayez même d'interroger, les enfants sont difficiles à faire la lecture. Donc, la lecture, nous avons la lecture très scandée pour les enfants parce qu'on a l'insuffisance des manuels de lecture. Pas seulement pour la lecture, mais même la mathématique. Parce que la pédagogie actuelle nous recommande que chaque enfant soit muni de son manuel.
Le souhait est que l'UNICEF renforce son intervention sous toutes ses formes pour améliorer la qualité de l'enseignement. Claude Zitone et Sibamwenda encore.
L'impact c'est positif, mais je sais que je souhaite évidemment, il faudrait que l'UNICEF continue à intervenir parce que là où je viens, il y avait quand même des fournitures qui étaient données, ou avant moi aussi il y en avait ici, ça améliorait la qualité de l'enseignement. Donc c'est important maintenant qu'on puisse encore nous venir en aide. Et puis les défis c'est peut-être la lenteur de l'intervention. Comme par exemple chez nous ici, nous avons posé les problèmes de fusante de pupitre, nous avons aussi évoqué les problèmes des pavements qui ne sont pas adaptés, pavements, il n'y a pas de ciment ainsi de suite. Mais alors jusque là la promesse a été faite, mais il n'y a pas de réalisation. Le gouvernement intervient, d'accord, mais ça ne suffit pas. Alors quand l'UNICEF intervient, ça nous aide, ça nous facilite le travail. C'est pourquoi nous avons besoin de l'UNICEF dans son intervention. Donc l'intervention, la présence de l'UNICEF chez nous, elle est capitale, elle est importante.
Pour sa part, Ayoma Kotela Lumande, le directeur de l'EPI à Beni, salue vivement l'intervention de l'UNICEF dans son école. Outre la construction des salles de classe, il faut noter aussi des formations introduites dans le programme de cette école grâce à l'UNICEF, ce qui est à la base d'un beau climat dans cette école.
Pour les PAB, nous remercions l'UNICEF parce qu'il nous aide à travers beaucoup d'ONG. Il nous a aidé à construire certaines salles de classe en planche 4 salles. On nous a donné des pupitres, des latrines et j'en passe. Dans mon école, il y a eu beaucoup de formations. Les ONG nous ont formés. Par exemple, nous avons vu le thème là, la bonne gouvernance. Déjà, quand il y a bonne gouvernance à l'école, on suppose qu'il y a tous les organes qui doivent être là. Il y a la direction, les conseils de gestion, les comités d'élèves et les comités des parents. Tous ces gens-là doivent figurer là et nous devons travailler en harmonie pour l'organisation d'une bonne école. De deux, nous avons vu l'appui psychosocial. En plus, nous avons vu la consolidation de la paix. Tout cela vraiment nous aide quand même à bien travailler dans notre école. Ces thèmes ont été discutés. Le comité des directeurs était là, les parents étaient là, les enseignants étaient là, c'est tout le monde qui était là. C'est positif. Parce qu'avec la bonne gouvernance, vous voyez que l'école est bien gérée. Il n'y a pas de problème parce que je ne gère pas seul. C'est le conseil de gestion qui gère. Et je dois contacter tous les organes là afin que le travail se passe bien à l'école. Du point de vue consolidation de la paix, il y a la paix à l'école pour le moment. On ne peut pas voir là des grognes, là des enseignants parce que tout se fait dans la droiture. Je crois que pour moi, quand on a besoin d'une culotte, il ne faut pas qu'on me donne une chemise. Donc, chez nous, par exemple, si on a besoin de la construction, on peut amener peut-être autre chose que ça. C'est ça le défi. Mais il nous aide. C'est pourquoi, par exemple, pour le moment, je souhaiterais qu'on puisse venir quand même réhabiliter les 6 salles qui restent. Sinon, ça risque de tomber sur les enfants.
Presque dans toutes les écoles, la priorité reste le renouvellement du manuel, compte tenu des effectifs qui ont augmenté à cause de la gratuité pour les cas des écoles publiques. Beni Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette seconde partie. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de la fréquence de la paix qui vous propose son magazine Bana Okapi. Dans ce numéro, nous nous intéressons aux actions menées par l'UNICEF en appui au gouvernement dans les secteurs de l'éducation. Une émission produite dans le cadre de la célébration de la journée des Nations Unies, célébrée le 24 octobre de chaque année. Sachez que l'UNICEF est l'une des agences du système des Nations Unies, de surcroît partenaire du gouvernement de la RDC dans plusieurs domaines depuis 60 ans. Quelles sont les actions menées par UNICEF durant ces 60 ans et comment ces actions ont-elles affecté la vie des Congolais? Éléments de réponse dans cette seconde partie du magazine Bana Okapi, présenté par Sarah Sumbela, mise en onde de Polydor Basunga, une réalisation de Gisèle Cage, sous la supervision de Jean-Marc Matokimo Felele Dijano. Ce magazine est coproduit par Plamedimbi Avanga, grâce à Vezolo, Rachel Kessé, Ezekiel Mouzalia, André Kitenge, Jeff Opela, Grévis Salomo, Étienne Lissumbo, Guylaine Kassassia et Stanislas Djoumi. Cette seconde partie s'ouvre. Pour ceux qui nous prennent en cours des diffusions, sachez que vous êtes à l'écoute de Radio Okapi qui vous propose son magazine Bana Okapi, un programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF dédié aux jeunes et plus jeunes. Quelles sont les actions de l'UNICEF dans les secteurs de l'éducation en 60 ans de présence en RDC? À Kinshasa, cette ville et province est également bénéficiaire et témoin des actions de l'UNICEF. Grâce à vos yeux, est allé à la rencontre de quelques jeunes qui nous relatent comment les actions de l'UNICEF ont affecté leur vie.
Et j'en connais plusieurs actions de l'UNICEF, notamment la construction des bâtiments scolaires, la distribution des manuels éducatifs, la distribution des cahiers, des bancs et consorts. L'UNICEF contribue de près à l'éducation mondiale, en fait. Parce que de loin, dans des endroits très reculés où les enfants ne peuvent pas aller à l'école, l'UNICEF aide les élèves, construit des bâtiments, des établissements pour que les élèves puissent au moins avoir l'éducation. Pour ne pas être des analphabètes, des illettrés, l'UNICEF aide à lire, à écrire, à apprendre. Il n'y a pas que les hommes qui doivent étudier ou les femmes, mais tout le monde doit aller à l'école. Même les orphelins, pas que les élèves qui ont des parents, les élèves qui ont des moyens pour aller à l'étude. Notamment, ils contribuent aussi à la gratuité de l'école. L'école doit être gratuite pour tous les élèves. Il y a des écoles où c'est trop cher, il n'y a pas moyen de payer, les élèves n'ont pas les moyens. Voilà pourquoi l'UNICEF nous aide.
L'UNICEF étant une organisation internationale basée sur l'éducation des enfants, il favorise surtout dans les milieux de favoriser l'éducation des enfants par rapport à certains programmes comme la gratuité de l'enseignement et prime sur l'égalité des sexes et l'émancipation de la femme en veillant que chaque chaque enfant ait le droit d'étudier et d'avoir accès à l'école d'une façon égale. On s'en rend pas vraiment compte par rapport aux différents milieux qu'on fréquente, mais c'est une réalité qui est très forte, surtout dans les pays du tiers-monde, où les enfants sont souvent défavorisés par rapport aux guerres ou à certains états de vie à cause de la pauvreté. Donc l'UNICEF veille de très près à ce que chaque enfant ait au moins le droit d'étudier. Par certains programmes comme le programme entrepris par le chef de l'État pour la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, un programme apprécié par la plupart de gens, il fournit des manuels scolaires aux élèves, des outils pour favoriser l'apprentissage. Comme par exemple dans certains milieux où l'UNICEF va déposer de bons, surtout dans les écoles publiques, ou de manuels scolaires, ou voire même loin des tablettes pour faciliter l'apprentissage, parce qu'au 21e siècle, on ne peut pas se tourner de la technologie pour apprendre.
Quant à moi, vraiment, je connais l'UNICEF, premièrement parce qu'il est là pour s'occuper à ce qui concerne l'éducation. Bon, sur ce, il est là toujours pour l'éducation, la protection des enfants, à récupérer les enfants qui sont premièrement abandonnés, surtout là où il y a des guerres, ils sont là toujours pour bien occuper. Pour construire des écoles, pour permettre à ceux qui n'ont rien d'avoir participé au cours, permettre aussi aux parents pauvres d'envoyer leurs enfants à l'école. Ils sont là aussi pour distribuer des manuels, des sacs, des cahiers, tout comme ça, pour aider les autres. Voilà, c'est un peu ça.
Moi, personnellement, j'ai jamais été bénéficiaire de l'organisation de l'UNICEF. Vu que je suis dans la capitale, moi j'étudie dans une école privée. Tout, je l'achète moi-même. Notamment les élèves qui ont besoin de l'UNICEF, ce sont des élèves qui étudient dans des écoles de l'État. Oui, il y a manque de bancs, des fois il n'y a pas de manuel scolaire, ils doivent distribuer, ils doivent construire. Des fois les salles sont insuffisantes.
Personnellement, je n'ai jamais bénéficié par rapport à un certain standing ou confort de vie, si je peux utiliser ce terme, mais j'en ai déjà été témoin dans certains endroits ou dans certaines écoles de mon entourage où l'UNICEF vient déposer des bancs, des manuels scolaires. Vu que nous sommes dans une grande ville, on ne s'en rend pas vraiment compte. C'est plus une réalité côtoyée dans l'intérieur du pays où il y a de la difficulté côté souvent argent ou par rapport aux guerres.
Ah oui, moi je l'ai déjà bénéficié. C'était dans mon école primaire. C'était privément. L'UNICEF était là pour nous aider. Ils ont distribué des manuels, y compris des bancs pour aider les élèves à bien étudier. Voilà, c'est un peu ce que j'ai bénéficié.
Oui, j'ai été bénéficiaire parce que j'ai eu des cousins, des cousines qui ont étudié dans une école vers limitée, l'école primaire. Ils avaient bénéficié de manuels, de bancs, des stylos, des gommes. Il y avait vraiment beaucoup de choses.
Okapi. Okapi.
Votre magazine Bano Capi se poursuit. Nous parlons des actions de l'UNICEF dans les secteurs de l'éducation en 60 ans de présence en RDC à l'occasion de la Journée internationale des Nations Unies célébrée le 24 octobre de chaque année. Notre premier invité dans ce magazine est Ayoma Kotela Lumande, directeur de l'école primaire d'application de Beni. Pour cette autorité, les interventions de l'UNICEF contribuent à l'amélioration de l'enseignement au sein de son école, notamment à travers la construction de différentes salles de classe, mais aussi l'introduction de certains programmes. Il recommande cependant que ces interventions soient permanentes pour une bonne éducation des élèves. Ayoma Kotela Lumande s'entretient avec Guylaine Kassassia.
Ayoma Kotola Lumande, bonjour.
Bonjour.
Comment les inventions de l'UNICEF ont-elles amélioré les infrastructures scolaires de votre établissement?
Pour nous, en tout cas pour les PA Beni, nous remercions l'UNICEF parce qu'il nous aide à travers beaucoup d'ONG. Il nous a aidé à construire certaines salles de classe en planche 4 salles. On nous a donné des pupitres, des latrines et j'en passe.
Alors, quel type de programmes éducatifs ou de formations ont été introduits grâce à l'UNICEF dans votre école?
Dans mon école, il y a eu beaucoup de formations. Les ONG nous ont formés. Par exemple, nous avons vu le thème là, la bonne gouvernance. Déjà, quand il y a bonne gouvernance à l'école, on suppose qu'il y a tous les organes qui doivent être là. Il y a la direction, les conseils de gestion, les comités d'élèves et les comités des parents. Tous ces gens-là doivent figurer là et nous devons travailler en harmonie pour l'organisation d'une bonne école. De deux, nous avons vu l'appui psychosocial. En plus, nous avons vu la consolidation de la paix. Tout cela vraiment nous aide quand même à bien travailler dans notre école.
Et cela, c'était des thèmes qui ont été discutés avec les élèves ou c'était des enseignants ou avec les parents?
Ces thèmes ont été discutés. Le comité des directeurs était là. Les parents étaient là, les enseignants étaient là, c'est tout le monde qui était là.
Sinon alors, comment évaluez-vous l'impact du programme de l'UNICEF sur la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans votre école?
Moi, j'évalue ça, c'est positif. Pourquoi? Parce qu'avec la bonne gouvernance, vous voyez que l'école est bien gérée. Il n'y a pas de problème parce que je ne gère pas seul. C'est le conseil de gestion qui gère. Et je dois contacter tous les organes là, afin que le travail se passe bien à l'école. Du point de vue consolidation de la paix, il y a la paix à l'école, pour le moment. On ne peut pas voir là des grognes, là des enseignants, parce que tout se fait dans la droiture.
Alors, quels sont les principaux défis rencontrés dans la collaboration avec l'UNICEF?
Comme tel les défis, oui, mais je crois que pour moi, quand on a besoin d'une culotte, il ne faut pas qu'on me donne une chemise. Donc, chez nous, par exemple, si on a besoin de la construction, on peut amener peut-être autre chose que ça. C'est ça le défi. Mais il nous aide. C'est pourquoi, par exemple, pour le moment, je souhaiterais qu'on puisse venir quand même réhabiliter les 6 salles qui restent. Sinon, ça risque de tomber sur les enfants. Ce sont des salles qui sont vraiment empisées. Les toiles ont noirci, les planchers ont pourri, ainsi de suite.
Comme vous l'avez dit, on demande une culotte, on donne une chemise. Peut-être vous avez demandé quelque chose, on ne vous a pas donné ce que vous avez demandé. C'est bon, ce que vous voulez dire.
Bon, c'est ça que je voudrais dire, mais on ne s'adresse pas directement à l'UNICEF, on s'adresse aux ONG. Déjà, quand les ONG nous donnent, on suppose que c'est l'UNICEF qui fait ça, parce que c'est l'UNICEF qui alimente les ONG. Mais chez nous, ici, le besoin réel pour le moment, c'est la réhabilitation des 6 sacs de classe qui a des planches pourries, je peux dire même pourries, usées.
On peut savoir, y a-t-il d'exemples concrets de succès ou d'améliorations notables grâce aux interventions de l'UNICEF dans votre école? Est-ce qu'il y a d'exemples concrets ici?
Je vous dis, je remercie grandement l'UNICEF. Allez voir même les latrines. C'est grâce à eux. Voyez les 4 salles ici. Et même les salles là qui ont été réhabilitées bien avant, c'est toujours l'UNICEF. C'est pourquoi j'ai dit grand merci. Seulement, les besoins encore là, c'est pourquoi nous sommes en train de pleurer. Les 6 salles là, nous en avons besoin. Nous voulons qu'elles soient construites aussi.
Comme avec la gratuité, les effectifs ont augmenté.
L'effectif et moi, j'avais d'abord 18 classes. Les 18 classes ont été réduites en 12. C'est pourquoi, en moins par classe, on a plus de 100. Plus de 100 écoliers. C'est compliqué. Au lieu de devenir gratuit, c'est devenu la gravité de l'enseignant, surtout à cause du pléthore des enfants.
Et la réduction là de 18 à 12, c'était dû à quoi?
Cela est dit parce que les enseignants, eux, ils ne sont pas payés. Si on paye les NI, on pouvait remettre les classes là.
Monsieur le directeur, quel type de soutien et de ressources supplémentaires aimeriez-vous recevoir de la part de l'UNICEF?
Pour le moment, moi, j'insiste sur la réhabilitation de mes 6 classes là. C'est là où j'insiste d'abord. C'est ça que je demande pour le moment.
Les manuels, il y en a.
Les manuels, il y en a, mais il faut qu'on augmente aussi. Parce que chaque année, on doit avoir des choses qui s'abîment. En tout cas, nous sommes dans les besoins d'abord de nos classes. Là, si on faisait ça, en tout cas, nous dirons merci, merci, merci grandement.
Monsieur le directeur, si on peut revenir sur le manuel, par exemple, je ne sais pas, l'UNICEF intervient aussi dans le renforcement des manuels. Comment est cet état dans votre école ici? Vous avez reçu les derniers manuels quand?
On en a déjà eu en 2017, on a eu ça.
Et aujourd'hui, ils sont dans quel état?
Vous voyez, l'état, ça fait déjà 2024, 7 ans, c'est dit, nous sommes dans les besoins d'avoir d'autres. Il faut qu'on nous envoie d'autres.
Est-ce que les peu que vous avez là aide au moins quand même les enfants à bien étudier, aux enseignants de bien préparer les cours?
Bon, c'est de même selon ce qui est là. Et on essaie quand même de photocopier d'autres, selon les moyens que nous pouvons. On essaie de photocopier pour quand même que les enfants aient quelque chose comme instruction.
Oui, pour clôturer, quelles recommandations feriez-vous pour améliorer la collaboration entre les écoles et l'UNICEF?
Moi, je dis que nous sommes bien avec l'UNICEF. Parce que sans l'UNICEF, d'abord, mon école n'existerait même pas. Moi, je félicite qu'il continue à nous soutenir sans cesse, sans fatigue, dans tout, que ce soit en formation, que ce soit en manuel, que ce soit en construction. C'est par exemple, j'insiste encore, que les 6 salles là, des salles pisées, vous, que vous voyez vous-même ici, qu'ils viennent les réhabiliter. En tout cas, c'est ça le besoin le plus utile pour le moment.
Monsieur le directeur, nous vous remercions.
C'est plutôt Ayoma qui vous remercie.
Nous parlons des actions de l'UNICEF dans les secteurs de l'éducation en 60 ans de présence en RDC à l'occasion de la Journée internationale des Nations Unies célébrée le 24 octobre de chaque année. Il est préférable que l'UNICEF puisse s'approcher davantage des différents syndicats des enseignants pour mieux comprendre et peut-être apporter une solution définitive aux problèmes qui rongent les secteurs de l'éducation en RDC. Ces propos sont du président du syndicat national des enseignants des école primaire publique du territoire de Mambasa en Ituri. Dans une interview accordée ce lundi à Bana Okapi, Damien Nimbouzi reconnaît l'appui de cette agence de l'ONU dans le cadre du renforcement de capacité des enseignants qui vivent dans la misère. Il recommande cependant à cette agence de s'impliquer pour l'amélioration de leur enveloppe salariale. Damien Nimbouzi, Tongolo, s'entretient au téléphone avec Ezekiel Mousalia.
Monsieur Damien Nimbouzi Tongolo, bonjour.
Bonjour, bonjour monsieur.
Vous êtes le président du syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques, SINEP, dans le territoire de Mambasa. Comment vous évaluez l'impact de l'UNICEF, surtout sur l'amélioration de la qualité de l'éducation en République démocratique du Congo?
Nous aimons vraiment bien ce partenaire-là, UNICEF, qui est venu dans notre pays RDC pour nous appuyer, surtout à l'éducation de nos enfants. Il est en train de faire ce travail-là vraiment sa part et quelquefois, bon, en collaboration avec nos autorités de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Mais sauf que peut-être il y aura certains soucis qu'il faudra que l'UNICEF puisse un peu corriger. Et l'UNICEF se passe directement avec les autorités, mais il n'a jamais palpé du doigt la réalité des enseignants auprès de leurs représentants tels que les syndicalistes. C'est un peu ça. Parce qu'il y a certaines vérités qui se disent dans des bureaux et d'autres réalités encore sont aux enseignants concernés, aux cibles. Les enseignants eux-mêmes sont en train de traverser. Je souhaiterais que, à part contenter seulement les autorités de l'éducation, il serait aussi souhaitable à ce que l'UNICEF contacte aussi les représentants des enseignants tels que les syndicalistes.
Quels sont les principaux défis rencontrés dans la collaboration entre les syndicalistes et cette agence onusienne?
Bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore remarqué quelque chose, sauf que bon, l'UNICEF n'est jamais arrivé chez nous ici contacter les syndicalistes. L'UNICEF vraiment est éloigné des syndicalistes jusqu'à présent. Nous n'avons jamais contacté la présence de l'UNICEF nous approcher comme ça, comme syndicalistes.
Et comment vous impliquez dans le projet éducatif mené par l'UNICEF?
Bon, nous sommes là, chaque fois, je vous avais dit que les autorités nous amènent des formations comme ça, mais nous souhaiterons que l'UNICEF puisse nous approcher de plus pour connaître un peu les faits fonds des réalités que les anciens sont en train de traverser, surtout en matière d'éducation. C'est un peu ça.
Mais est-ce qu'il y a par exemple des avantages ou même des inconvénients que vous avez eu à remarquer dans l'implication de l'UNICEF dans le secteur éducatif dans notre pays ou bien là chez vous, à Mambasa?
Oui, vraiment, les avantages sont un peu nombreux parce que l'UNICEF, quelquefois, est en train de récupérer les enfants là qui avaient des problèmes sur les déplacés des guerres. Il y a un moment comme ça, on avait remarqué que avec l'appui de l'UNICEF, il y a d'autres ONG qui sont venus ramasser un peu ces enfants-là qui étaient sans soutien. Une fois que les parents sont déplacés, il y a un problème. Alors l'UNICEF, dans son anglais, là, éducation, est venu faire appui aux enfants-là qui étaient victimes de conflits ethniques, de conflits de guerre en RDC. Un peu ça, l'avantage. Les désavantages, c'est quoi? C'est parce qu'ils ne parlent pas vraiment des droits. Les représentants maintenant des enseignants qui sont les syndicalistes. Je vous avais dit tantôt qu'ils viennent chaque fois dans des directions et là on leur donne autre rapport à part la réalité que les représentants des enseignants sont en train de traverser. On aurait souhaité à ce que l'UNICEF s'approche aussi de plus en plus les représentants des enseignants qui sont des syndicalistes.
Quelle est cette réalité alors selon vous? Quelle est la réalité que traversent les enseignants dans les territoires de Mambasa là-bas?
La réalité est que nous avons un problème qui est commun sur toute l'étendue de l'étendue nationale. Nous avons un problème qui est un salaire là. L'UNICEF peut venir peut nous appuyer avec des manuels, peut nous appuyer avec des formations, mais ça va maintenant rester que c'est lui-là qui sera en train de dispenser, de prester à côté de l'enfant. Non, n'a pas un appui là vraiment sur sa vie socio-professionnelle. Les problèmes se posent au niveau de son avoir matériel. Si l'UNICEF aussi pouvait songer quelque chose, venir à l'appui aussi au gouvernement, pas seulement pour la formation, pas seulement pour les manuels, l'appui à des choses, des matériels didactiques, mais on aurait souhaité à ce que l'UNICEF aussi puisse songer à côté à ce que le gouvernement donne aux enseignants, venir quelque chose comme appui à la survie, au salaire, là, à côté de ça.
Mais vous, les syndicalistes, quel type de soutien ou bien même des ressources vous aimeriez recevoir de l'UNICEF pour améliorer l'éducation dans notre pays?
Bon, dans notre pays, nous aimerions ce que j'ai déjà presque dit, que l'UNICEF peut nous aider. Nous a toujours appuyé avec des manuels, nous a toujours été appuyé avec des formations, mais à plus de ça, j'avais dit que l'UNICEF pouvait encore nous approcher et voir la réalité que nous sommes en train de traverser. Parce qu'on peut nous outiller n'importe comment, mais si cet enseignant-là demeure encore malade, cet enseignant-là n'a pas la force vraiment de très bien dispenser cours, vraiment, tous les efforts que l'UNICEF serait en train de faire pour nous, pour l'éducation en RDC, serait en train de très préoccupation, surtout une éducation de qualité. Si nous sommes là sur l'éducation de qualité. L'UNICEF pouvait venir dans ce sens-là, en plus des matériaux didactiques, en plus de la formation, et songeons aussi à appuyer le gouvernement sur les salaires qu'ils sont en train d'avoir, mon frère.
Et donc, au-delà de ça, est-ce que vous avez par exemple des exemples, hein, vous avez des exemples des projets de l'UNICEF qui ont déjà réussi dans les secteurs de l'éducation?
Bon, comme j'avais dit que l'UNICEF est un peu éloigné de nous ici à Mombasa, tellement on les voit, bon, mais il n'est pas tellement visible ici. C'est un peu difficile de vous dire qu'il y a tel exemple que nous avons vécu, mais l'UNICEF est plus ou moins un peu éloigné de nous ici à Mombasa.
Mais quelle peut être la contribution ou bien quel peut être l'impact de l'UNICEF dans les territoires de Mombasa pour améliorer la qualité de l'éducation dans cette zone qui a été longtemps et qui est encore affligée par les atrocités des groupes armés?
Nous aimerions que l'UNICEF puisse arriver à Mombasa et une fois arrivé, contacte les autorités que nous avons dit et après ça aussi les représentants des enseignants qui sont les syndicalistes pour voir ensemble, maintenant il y aura une assise qu'on va voir ensemble quels sont les moyens que l'UNICEF peut faire, parce qu'en distance comme ça l'UNICEF peut seulement les autorités là ont souvent l'habitude d'écrire des mots français et consorts, mais la réalité reste là que nous voulons la qualité de l'enseignement. Si l'UNICEF pouvait venir ici, voir les autorités, bien sûr, c'est la première chose, et se contacter, se voir aussi avec le représentant des enseignants, comme ça on voit des concrets, qu'est-ce qu'on peut arrêter comme décision dans l'ensemble.
Peut-être avant de finir, comment les syndicats peuvent-ils mieux collaborer avec l'UNICEF pour atteindre des objectifs communs en matière de l'éducation?
Nous avons voulu un peu que l'UNICEF puisse venir nous appuyer, surtout parce que le syndicaliste est là, c'est un partenaire aussi de l'éducation comme l'UNICEF, et nous aurons souhaité que l'UNICEF puisse nous arriver à Mombasa, et une fois arrivé, nous allons parler, nous aurons quelque chose, l'échange comme ça avec l'UNICEF pour améliorer et d'assembler la qualité de l'éducation dans notre milieu. Dire que je peux vous proposer des pistes de solutions, non. Ces jours-là, quand ils seront là présents, maintenant nous allons nous interchanger, on aura de quoi parler.
Alors, quelles sont les recommandations que vous pouvez donc formuler pour améliorer la collaboration entre les syndicats et l'UNICEF?
J'aurais souhaité à ce que, je ne sais pas, l'UNICEF puisse aussi avoir une base ici à Mombasa, comme la peut-être une base en chose à Bougne, mais on aurait souhaité à ce que nous puissions avoir une base aussi solide ici à Mombasa pour l'amélioration de la condition de l'éducation de l'enfant congolais.
Mais est-ce que là, on sent que les enfants ont besoin de l'UNICEF là-bas, ou bien est-ce que le secteur éducatif à Mombasa a besoin de l'apport de l'UNICEF?
Oui, vraiment. À Mombasa, c'est comme nous apprenons partout ailleurs que l'UNICEF est en train de venir un peu en aide, soutenir, appuyer l'éducation de nos enfants. Nous aurons aussi à notre retour aussi souhaité à ce que l'UNICEF puisse aussi venir ici, comme nous apprenons partout ailleurs. L'UNICEF est en train de faire de meilleures choses ailleurs, mais nous ignorons un peu ces traces ici à Mombasa, des grandes traces, vraiment, nous ne les voyons pas clairement. Nous aurons souhaité à ce que l'UNICEF aussi puisse nous arriver ici à Mombasa, comme nous apprenons partout ailleurs. Les œuvres que l'UNICEF fait ailleurs peuvent aussi venir faire aussi à Mombasa. Que Mombasa aussi puisse être bénéficiaire des actions de l'UNICEF qui se font ailleurs.
Monsieur Damien Nimbunzi Ntongolo, je rappelle que vous êtes le président du syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques, SINEP, dans le territoire de Mombasa. Je vous remercie.
Merci, c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Quelles sont les actions de l'UNICEF dans les secteurs de l'éducation en 60 ans de présence en RDC? Je reçois pour vous Madame Traoré Alanta Barra, manager de l'éducation au bureau de l'UNICEF Kinshasa depuis décembre 2023. Il faut savoir que depuis 60 ans que l'UNICEF s'est installé en RDC, il y a eu beaucoup d'avancées dans les secteurs de l'éducation. L'UNICEF a beaucoup lutté pour l'accès à l'éducation pour tous au niveau du préscolaire, du primaire et du secondaire. En ces 20 dernières années, la RDC est passée d'un accès à l'éducation en 2001 de 20% à 52% en 2024. Madame Alanta, bonjour.
Bonjour.
Madame Alanta, quel bilan dressez-vous sur l'éducation de l'enfant congolais?
Alors, je dirais qu'il y a eu beaucoup de progrès par rapport à l'éducation de l'enfant congolais depuis que UNICEF a installé en RDC, donc depuis 60 ans. Et particulièrement depuis les années 2000, après la conférence mondiale sur l'éducation pour tous, on a eu vraiment beaucoup de bons par rapport à l'accès à l'éducation des enfants en RDC, comme c'est le cas dans beaucoup de pays de la région, même du continent, particulièrement aux primaires. Et on a également beaucoup d'enfants, beaucoup plus d'enfants qui font la transition entre le primaire et le secondaire. Donc on a par exemple un achèvement au niveau de primaire et secondaire réuni de 52% alors qu'on était à moins de 20% en 2001. Donc sur 20 ans, il y a vraiment une grosse accélération grâce à tout ce qui est politique publique favorable à l'éducation menée par le gouvernement et l'accompagnement des partenaires, y compris UNICEF.
Pouvons-nous connaître le programme déjà exécuté en faveur de l'éducation ou en faveur de l'accès de tous les enfants dans les écoles par UNICEF?
Alors, l'UNICEF en RDC travaille tout d'abord, comme le mandat de l'UNICEF le dit, pour la promotion des droits de l'enfant, donc la promotion de la Convention des droits de l'enfant, et particulièrement pour l'éducation, donc droit à l'éducation des enfants, notamment les plus vulnérables. Droit à l'éducation avec un paquet intégré, donc droit à l'éducation en lien avec le droit à la protection des enfants, le droit à l'épanouissement, le droit à la santé, le droit à la nutrition, le droit à une identité par exemple. Donc l'éducation est une porte d'entrée pour nous pour promouvoir les autres droits qui sont tous égaux et universels. Donc ça c'est déjà l'approche de UNICEF en RDC. Nous travaillons principalement dans la promotion de l'éducation, l'accès à l'éducation au préscolaire, au primaire et secondaire, aussi bien dans les zones d'urgence. Donc la RDC est un pays qui malheureusement fait face à plusieurs crises récurrentes depuis plusieurs décennies, comme on le sait tous, crises et urgences complexes, hein, conflits, catastrophes naturelles, des fois des crises politiques aussi, mais en tout cas tout ce qui est enfant est en fait dans les zones d'urgence, mais également en appui au renforcement des systèmes et aux politiques dans les zones de développement. Donc les stratégies que nous utilisons pour accompagner le gouvernement dans ce mandat d'accès à une éducation de qualité aux enfants les plus vulnérables, c'est l'appui aux politiques et aux systèmes du gouvernement. C'est tout ce qui est plaidoyer et innovation pour pouvoir avoir des approches qui sont contextualisées pour répondre aux besoins des enfants congolais, mais également des innovations qui permettent d'accélérer les résultats. Nous faisons tout ce qui est génération d'évidence pour mesurer les progrès, mais également aider à avoir les meilleures approches qu'il faut en éducation. Nous travaillons dans le renforcement des capacités institutionnelles, aussi bien au niveau central que décentralisé. Nous sommes dans 13 provinces en RDC. Nous travaillons avec les provinces, les sous-provinces, donc les services déconcentrés, mais également les services décentralisés de l'éducation, mais des services sociaux également, et de santé, nutrition, et comme il le faut, s'il le faut, et l'administration également. Et puis, nous travaillons pour la mobilisation de ressources pour pouvoir aider le gouvernement à cette mission de s'assurer que tous les enfants ont accès à une éducation, mais particulièrement, bien sûr, dans les zones dans lesquelles nous sommes, sachant que nous sommes dans les zones où nous avons le plus de vulnérabilité en termes d'accès à l'éducation en RDC. Et puis, nous travaillons aussi également à promouvoir les partenariats, partenariats avec les sociétés civiles locales, partenariat avec les ONG, partenariat avec le secteur privé, partenariat avec le gouvernement à travers ces différentes entités et partenariat avec également les entités sous-régionales comme la CEAC ou l'Union africaine ou au niveau un peu plus global. Voilà, pour mettre en exergue la RDC et les besoins de la RDC en termes d'accélération des indicateurs d'éducation.
Madame Traoré, vous avez tantôt parlé de la présence de l'UNICEF dans 13 provinces de la RDC, sauf que la RDC a 24 provinces. Alors pourquoi l'UNICEF n'est pas dans les autres provinces? Est-ce que c'est juste question de vulnérabilité ou les autres provinces n'ont pas assez de problèmes pour exiger la présence de l'UNICEF?
Comme je l'ai dit, nous accompagnons le gouvernement pour cette mission régalienne de promouvoir l'accès à une éducation de qualité à tous les enfants congolais. Donc, nous ne nous substituons pas à la mission du gouvernement. Et dans cette perspective-là, en lien avec notre mandat, qui est de promouvoir les droits des enfants, notamment pour les enfants les plus vulnérables, donc nous faisons ce que nous appelons une analyse des vulnérabilités et des privations aux droits des enfants quand nous entamons tout cycle programmatique, c'est-à-dire tout, parce que nous travaillons en RDC tout comme dans tous les pays du monde entier avec des cycles programmatiques de 5 ans qui sont signés avec le gouvernement du pays dans lequel nous sommes, donc pour le cas en l'espèce avec le gouvernement de la RDC. Donc nous avons un cycle programmatique qui cette année finit en décembre et qui a été mené durant les 5 dernières années et nous entendrons un nouveau cycle à partir de janvier 2025. Et donc à l'entame de chaque cycle programmatique, nous faisons ce que nous appelons donc l'analyse des privations en termes de droits des enfants. Et pour l'angle éducation, donc nous nous focalisons sur là où nous savons que les enfants dans ces zones, dans ces territoires, dans ces provinces sont ont le moins de chances d'accéder à une éducation de qualité, mais également on combine ça avec les autres privations. Donc on nous intervenons dans les zones où il y a le plus de privations complexes, c'est-à-dire privation langue éducation, mais en lien avec la nutrition, en lien avec la santé, en lien avec la protection. Et donc c'est comme ça que nous positionnons pour, comme je dis, ne pas substituer à ce que le gouvernement fait. D'autres partenaires accompagnent le gouvernement aussi a d'autres programmes dans les autres provinces. Ça ne veut pas dire, comme vous l'avez dit, qu'il n'y a pas de besoin dans les autres provinces. Nous avons des stratégies, par exemple le renforcement des politiques et des systèmes, le renforcement des capacités institutionnelles qui bénéficient aux autres provinces, par exemple. Mm-hmm. Une stratégie d'éducation des filles qui est adoptée, une stratégie d'éducation en urgence qui est adoptée, ça bénéficie à toutes les provinces, à tout le pays. Mais par contre, les interventions jusqu'au niveau école, là, nous ciblons vraiment là où nous savons qu'il y a le plus de privations. Et c'est ça qui justifie cette limitation aux 13 provinces prioritaires dans notre programme.
Quels sont les défis que vous rencontrez dans l'exécution de vos projets ou programmes en faveur de l'éducation en RDC?
Alors, premièrement, je dirais la mobilisation de ressources. Nous n'avons pas toujours, surtout ces dernières années, parce que nous avons eu le sentiment qu'avec la récurrence des crises qu'il y a en RDC, et avec les autres crises émergentes au niveau du continent comme le Soudan, comme le Sahel ou au niveau global comme l'Ukraine, la Palestine, la RDC semble être un pays négligé ou les crises en RDC semblent être négligées alors que ça affecte de nouvelles populations, ça a une ampleur différente et puis la dynamique du pays elle n'est pas la même. Donc on a du mal à mobiliser des ressources pour pouvoir mener à bien nos programmes et pareil, pour ce n'est pas que pour nous, hein, c'est aussi pour les autres partenaires. Donc ça c'est la première contrainte. La seconde contrainte c'est en lien avec le fait que toutes les interventions que nous avons menées jusque-là, j'allais dire la durabilité ou en tout cas la capitalisation des acquis de nos interventions, et pour les mettre à l'échelle. Parce que jusque-là, les interventions sont restées à l'échelle de certains territoires dans une province, par exemple, mais ne couvrent pas toutes les provinces, notamment dans les zones, par exemple, qui ne sont pas affectées par les crises, où on a des approches de développement ou de résilience qui sont assez prometteuses et qui peuvent être dupliquées. Et ça, c'est en lien avec les ressources, mais aussi en lien avec le fait que des fois, nous n'avons pas cette appropriation des interventions que nous menons par la partie gouvernementale pour pouvoir s'assurer que si une pratique est pour les enfants dans une classe, c'est à mettre à l'échelle.
60 ans que UNICEF est présent en RDC, quelles sont les avancées qui ont eu lieu dans les secteurs de l'éducation grâce à l'appui de l'UNICEF?
Alors, il est difficile de s'approprier certaines avancées parce que nous ne sommes pas seuls. Nous travaillons, comme je l'ai dit, en partenariat avec les autres agenceurs, les autres agences bilatérales, les ONG, les acteurs locaux. Mais je peux quand même dire que nous avons été avant-gardistes à impulser certaines discussions sur des sujets difficiles et qui ont porté certains fruits, même si on ne va pas se targuer d'avoir tous les résultats. Je pourrais citer par exemple la question de la déducation des filles en lien avec les violences et les privations faites aux filles, parce que nous avons beaucoup œuvré durant ces 60 dernières années et à la génération d'évidence, au plaidoyer, à avoir certain leadership, à impulser certain leadership en face pour pouvoir positionner la question de l'éducation des filles comme une priorité au niveau du secteur de l'éducation, à montrer que les filles sont privées d'éducation comparées aux garçons dans certaines zones pour certaines raisons. Je ne dis pas que le combat est gagné, mais en tout cas, le sujet est une top priorité, est devenu de plus en plus une priorité et ça l'est aujourd'hui encore plus. Et nous allons d'ailleurs accompagner le gouvernement pour la révision de la stratégie nationale d'éducation des filles à partir de l'année prochaine. La question de l'accès à l'eau, hygiène, assainissement dans les écoles. Nous avons, avec nos collègues de WASH, donc eau, hygiène, assainissement, beaucoup travaillé à promouvoir, à modéliser, à amener des modèles, des approches, des ouvrages qui sont contextualisés aux besoins et au contexte congolais, sachant que on a vraiment différents contextes en RDC, selon les provinces où nous sommes, avec des solutions qui sont coût-efficaces et des programmes à large échelle. Et puis aussi à réformer les standards du gouvernement. Quand je dis gouvernement, je parle éducation, je parle hydraulique, je parle hygiène et assainissement. Donc à réviser la standard pour avoir ces modèles-là qui sont les plus coûts-efficaces, aussi bien en termes d'ouvrage, mais également que d'approche de promotion d'hygiène avec les modules, la promotion, l'engagement avec le comité de gestion, des choses comme ça. Donc on a beaucoup travaillé sur la question de hygiène et assainissement, également dans les écoles. La question des standards de séparation des latrines filles-garçons, par exemple, les rampes d'accès pour les enfants avec handicap, des choses comme ça. Également, la question de l'éducation préscolaire, par exemple, on a beaucoup travaillé, on n'a pas encore là où nous voulons être, mais en tout cas, on a fait beaucoup d'évidence, on a piloté beaucoup de modèles, ça devient de plus en plus une priorité, mais on n'est pas encore à des résultats que nous escomptons, parce que nous voulons une universalisation de l'éducation préscolaire avec la gratuité, mais nous y travaillons. Je ne citerai que cela, mais sinon il y en a beaucoup d'autres.
Quel appel pouvez-vous lancer aujourd'hui aux enfants de la RDC en ce qui concerne l'éducation et la scolarité pour tous?
Alors, je leur dirais aux enfants d'être confiants parce qu'ils sont dans un pays où le gouvernement a inscrit la gratuité de l'accès à l'éducation comme une priorité dans la Constitution, dans ses politiques éducatives et l'a matérialisé avec des réformes qui accompagnent cette gratuité. Bien sûr, il y a des difficultés. Les difficultés ne sont pas que propres à RDC, cela a été partout, mais la volonté, elle est là. Mmh. Et elle est en train de se mettre en œuvre. Donc, il y a une confiance. Ils n'ont qu'à avoir confiance à l'école et confiance à leur gouvernement. Confiance à l'UNICEF qui accompagne le gouvernement pour que cette gratuité puisse se matérialiser effectivement. Aussi bien dans les écoles primaires, nous espérons pour le préscolaire. Le gouvernement ambitionne dans quelques années d'aller vers le secondaire. Nous allons être là pour les accompagner. Et que, en plus des enfants, j'encouragerai également les parents à s'impliquer à ce que les enfants aillent à l'école, mais qu'ils apprennent. Parce que le challenge aujourd'hui en RDC, c'est que les enfants vont à l'école au primaire, mais nous n'avons pas l'apprentissage qui doit y aller. Un enfant va à l'école pour apprendre. Il ne va pas juste à l'école. Et donc, le challenge que nous avons aujourd'hui et qui ne peut être résolu qu'avec, bien sûr, le gouvernement, avoir de meilleurs enseignants, des enseignants qui sont payés, qui sont motivés, mais également des parents qui sont là aux côtés de leurs enfants pour s'assurer qu'ils ont les conditions environnementales et familiales qu'il faut pour apprendre. Des comités de gestion engagés pour donner l'environnement scolaire possible, favorable. Des enfants qui sont motivés, qui sont bien nourris, qui sont en bonne santé, qui sont bien traités à l'école et à la maison. Et bien sûr, des partenaires techniques et financiers comme nous, qui seront à côté du gouvernement, des parents, des enfants, pour s'assurer que les enfants vont à l'école, mais qu'ils apprennent également. Et tous les enfants, avec handicap, les filles, les enfants souffrant d'urgence, les enfants qui sont violentés, en tout cas toutes les vulnérabilités, et tout enfant a droit à l'éducation, adolescent également. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Madame Alenta Traoré, merci.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
C'est par cet entretien que nous bouclons ce numéro du magazine Bana Okapi du jour. À l'occasion de la journée des Nations Unies, célébrée le 24 octobre, votre magazine Bana Okapi a voulu mettre en lumière les actions réalisées par l'UNICEF, agence des Nations Unies dans les secteurs de l'éducation. En effet, l'UNICEF appuie le gouvernement congolais depuis 60 ans dans différents secteurs. En 60 ans, ces actions ont touché des milliers de Congolais et ont permis de scolariser des milliers d'enfants. Si vous avez manqué une partie de ce magazine, vous pouvez le réécouter sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net ou sur la page Facebook Bana Okapi. Toute l'équipe était heureuse de vous proposer ce magazine que j'espère vous a plu. Je vous laisse en compagnie de Stanislas Diomi qui anime l'antenne soir et on se retrouve demain à 15h30, heure de Kinshasa.